Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
On s'emploie pour vous. Le podcast des juniors d'Alsace.
On s'emploie pour vous. De retour. Et oui, nous n'étions pas là le mois dernier. Il y a quelques lettres, 5 lettres, hein, qui nous ont fait du mal. Les 5 lettres et les 2 chiffres, Covid-19, qui nous ont empêchés d'être là. Mais nous sommes là, nous sommes toutes et tous bien en forme pour une émission qui sera consacrée au rôle que nous jouons, peut-être ou peut-être pas, dans notre vie en entreprise. Est-ce que le lieu de l'entreprise, la salle de réunion, la machine à café, les couloirs, les bureaux sont des scènes de théâtre? Est-ce que nous sommes tous comédiennes ou comédiens? Sait-on jamais. En attendant, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Ricoeur, qui a la lourde charge de prendre la suite et du président et de Servane Pierre pour nous parler de l'actualité des juniors d'Alsace. Salut Eric.
Oui, bonjour.
Alors, cette actualité pour le mois d'avril, qu'en est-il ?
Alors, l'actualité du mois d'avril, elle est fondée sur les classiques des juniors, donc à savoir une rencontre café. Elle n'aura pas tout à fait lieu au mois d'avril, elle aura lieu début mai.
On ne fait pas là, c'est vers le 34 avril.
Oui, c'est très juste. Ce sera le 4 mai. Le 7 mai. Et son thème, c'est « Qu'est-ce que l'Assessment Center ?»
C'est quoi ?
Je conseille vivement à tous les gens qui sont en recherche d'emploi de s'intéresser à cette démarche. C'est une démarche d'évaluation des potentiels, c'est une démarche d'évaluation des possibilités des salariés. Elle a son importance au moment des phases de recrutement et ensuite au moment des phases d'évaluation des collaborateurs lorsqu'ils sont en poste. Donc, c'est un sujet qui n'est pas forcément très répandu, quoi qu'il existe depuis quelques années, mais j'invite tous ceux qui sont intéressés à s'y connecter. Ça se fera en visio, bien évidemment, Covid oblige. Je pense que c'est un bon sujet.
Voilà, www.juniordalsace.org pour avoir tous les détails pratiques. Voilà. L'actualité des juniors, c'est quoi aussi ?
Alors, c'est également la reprise. Alors, dès que, là encore, les conditions sanitaires nous le permettront, de ce que nous appelons la tête et les jambes. Donc, la tête et les jambes, c'est une démarche très sympathique qui permet en groupe de faire un effort collectif. Donc, en général, c'est une randonnée montagnarde, et tout ceci encadré par un ou plusieurs coachs. Hein, et le but étant de créer un esprit collectif, d'échanger et aussi, évidemment, de se détendre. Hein, c'est pour des périodes qui ne sont pas forcément simples pour chacun.
Voilà,
donc
c'est l'actualité.
Ça, on sera vraisemblablement début mai.
Voilà, on espère, et puis on espère que la météo, elle aussi, sera au rendez-vous. Ce serait dommage de pouvoir sortir sous la pluie.
Oui.
Et qu'y a-t-il encore, mon bon seigneur ?
Eh bien, qu'y a-t-il encore ? C'est un petit cheminement que j'aimerais vous faire partager. Il est clair que les juniors ont une vocation transgénérationnelle. Hein. Le dernier podcast a invité une de nos membres, qui est une très jeune femme. Moi, qui suis un petit peu plus avancé dans la jeunesse...
Ouais, t'étais au lycée quand elle était au collège.
Oui. Ses parents. Moi qui suis un peu plus avancé, je voulais faire un petit focus sur les seniors. Je voulais faire un focus parce que c'est quelque chose qui me semble très, très alarmant. Bon, j'ai une expérience maintenant qui m'a fait côtoyer beaucoup de gens qui traversaient cette phase-là. Et si on parle de chiffres, je regardais une chose. S'il y avait en 2009 un peu plus de 3 millions de chômeurs, à cette époque-là, les seniors étaient moins de 500 000. Aujourd'hui, on est à peu près à 4,2 millions de chômeurs. Et sur ces 4,2 millions, on a près d'un million et demi de seniors. Donc, il y a une situation qui se dégrade considérablement pour les gens qui sont dans cette dernière phase de leur cheminement professionnel. Alors, je dirais qu'au-delà des chiffres, hein, qui sont un peu rugueux comme ça, il faut imaginer que les gens qui, à 53, 4, 5 ans, se retrouvent sur la touche, vivent des moments super difficiles pour eux. Hein, parce que pas de certitude de retrouver, parce qu'ils ont aussi la compréhension du fait qu'ils n'atteindront probablement pas la période de la retraite en restant indemnisés d'un point de vue chômage. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement critique et qui amène souvent les gens qui sont dans cette situation à complètement dégonfler leurs réserves propres, quoi, quand ils en ont. Ou pire, s'ils n'en ont pas.
Alors que pourtant, ce sont des gens qui ont énormément à apporter.
Alors que c'est un potentiel extraordinaire. C'est 30 ans d'expérience, c'est la connaissance de beaucoup de choses, connaissance des méthodes, connaissance des processus. On n'est plus à la fin du siècle dernier. Les gens qui ont 50, 55 ans aujourd'hui ont été baignés par les technologies actuelles. Donc, ils ne sont pas à la remorque, comme ça peut-être était le cas il y a 30 ans, lorsque l'informatique débarquait et que tout le monde n'y avait pas été convié. Donc, on a des gens qui sont opérationnels, qui sont porteurs de beaucoup de potentialités et qui souvent, à ce stade, sont prêts à travailler à fond, simplement pour se remettre le pied à l'étrier, pour reprendre et terminer une belle dernière période professionnelle. Alors, j'invite vraiment les recruteurs, les responsables d'entreprise à voir ce qu'il est possible d'imaginer pour cette catégorie de personnes.
Et voilà, les vrais juniors, effectivement.
Les vrais juniors.
Merci beaucoup Eric pour ce mot des juniors. Le temps d'écouter une chanson d'un certain Charles qui colle parfaitement avec la thématique de ce mois. On se retrouve tout de suite au théâtre ce soir.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Et maintenant, sur une mise en son de Top Music et sur une mise en scène d'Alexandre Agrou, voici une production Les Juniors d'Alsace. Mon taf, c'est du théâtre. Alexandra, bonjour.
Bonjour Emmanuel. Alors, Vaste sujet, superbe sujet. Et pour cela, nous avons deux invités. Alors, Emmanuel, je te laisse présenter notre grande, grande invitée.
Il s'agit d'une dame qui est chanteuse, comédienne, metteuse en scène et donc qui, a priori, n'a rien à voir avec le podcast des Juniors d'Alsace, on ne sent pas pour vous. Sauf que tous ses talents artistiques, elle les met au service des entreprises à travers de la formation, mais justement sur ce biais du théâtre, comment se comporter sur le terrain de l'entreprise. Bienvenue Corinne Guth.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et notre deuxième invité, Pascal Vespizer, on le connaît. Pendant plus de 20 ans, il a dirigé des filiales françaises et des grands groupes internationaux. En 2009, il a eu ce courage, ou cette folie, on verra avec lui, tout à l'heure, de racheter donc des agences GESIM, intérim, qui sont maintenant bien basées. C'est devenu quand même le premier acteur dans le domaine des prestations RH. Bonjour Pascal Vespizer.
Bonjour.
Ça c'est simple, t'as vu, c'est comme au théâtre. Hein.
Effectivement, belle répartition des rôles et avec une première question qui sera la question fil rouge que je vous pose à tous les deux, Pascal Vespizer et Corinne Guth. Est-ce que, comme j'ai pu l'annoncer, le lieu où l'on travaille, c'est aussi et peut-être même surtout une scène de théâtre avec des acteurs?
Alors moi je trouve que oui, complètement. À partir du moment où on n'est plus chez soi dans son salon tranquillement, on va en représentation quelque part. Et le mieux, c'est d'être le plus centré sur soi pour que la représentation soit la même à la maison et à l'extérieur, pour qu'il n'y ait pas trop de différence, à mon avis. Mais il y a une sorte de représentation, oui, bien sûr.
Et vous, Pascal, qu'en dites-vous ?
Donc moi, je suis censé être le mec sérieux, chef d'entreprise, ça, je devrais dire non. Mais je viens de penser que parfois même dans mon salon, je fais du théâtre. Donc oui, je pense que la vie, c'est du théâtre, c'est-à-dire qu'on est en représentation. Et par contre, dans une entreprise, il faut de la sincérité. Donc on peut faire du théâtre sincèrement. Voilà, c'est ça l'idée.
Mais alors, ma première question, Corinne, est-ce qu'il n'y a pas après un manque d'originalité ? Si on fait que jouer ?
En fait, je dirais qu'il faut jouer naturellement. Et donc, le plus sincèrement et le plus près de soi. Et donc, en fait, ce n'est plus un jeu. C'est simplement se mettre au mieux de ce qu'on peut faire. Et pour ça, il faut réfléchir un petit peu dans le sens, eh bien, comment on se présente ? Comment est-ce qu'on va dire forcément tout et sans filtre ? Qu'est-ce qu'on montre de soi ? Et voilà, c'est de la réflexion avant d'agir et pour se montrer au mieux de soi. C'est plutôt sympa, je trouve.
On entend souvent dans les entreprises, dans le langage entre les collaborateurs, il y a toujours un, c'est un peu comme le tonton bourré dans la famille, toujours un collaborateur un petit peu énervé après tout le monde, grincheux et tout. Et ce collaborateur leur dit, faut le prendre comme il est. Finalement, rien que là, on est dans une pièce de théâtre, finalement, avec un personnage qui est déjà très bien écrit, très bien sculpté.
Oui, certainement. Et puis, alors moi, je pars du principe que si on ne peut pas bouger un mur, eh ben, faut mieux s'adapter et trouver un autre moyen de contourner le mur ou de franchir ou par-dessus, par-dessous, comme on veut. Mais ce qu'on ne peut pas bouger, on ne le bougera pas. Donc, ce genre de personne, avant qu'il ne change, on risque le burn-out avant, peut-être. Donc, il faut faire autrement.
Pascal, j'en profite avec les agents GESIM. On a souvent, c'est des recruteurs. On parle souvent, les entreprises parlent souvent de savoir-être avant un savoir-faire. Alors là, dans ce cas-là, quand on joue une pièce de théâtre, quand on joue un rôle, il est où notre savoir-être ?
Oui, moi, je pense qu'effectivement, jouer, il y a le besoin d'être en conformité avec ce qu'on pense, parce qu'on peut pas être, on peut pas faire le grand écart. Donc ça reste quand même une constante. Mais faut être lucide. Des gens qui vont passer 3 heures à travailler sur un super texte hyper chiadé avec, si quand il faut qu'ils en parlent devant une personne, devant une assistance, ils sont complètement à côté de leur texte, ils donnent pas envie. Enfin, on sait aujourd'hui que les gens retiennent d'un discours les 30 premières secondes, quoi. Donc, si on n'arrive pas à avoir un peu la, alors on peut appeler ça la théâtralité, on peut appeler ça aussi la prestance, on peut appeler, mais il faut rester sincère, parce que je pense qu'on peut pas jouer le rôle du bon si on est vraiment fondamentalement mauvais, quoi. En tout cas pas dans l'entreprise. Alors dans les comédies, dans les films, c'est sans doute possible, mais pas dans l'entreprise.
Est-ce qu'un recruteur, et c'est une question à laquelle tu pourras aussi répondre, Alexandra, est-ce qu'un recruteur aujourd'hui c'est un casteur?
Il y a de ça quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que le problème... Alors, il y a une crise en ce moment, on parle d'augmentation du chômage, mais moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que dans nos agences, on a toujours autant de difficultés, voire encore plus, à trouver des candidats pour nos clients. Donc ça reste malheureusement une constante. Donc, dans un monde de rareté de la ressource, il faut quand même donner un peu envie. Et comment tu donnes envie? Alors, on a beaucoup de messages qu'on passe aux entreprises pour ce qu'on appelle de la marque employeur. Mais c'est quoi la marque employeur? C'est se mettre un peu en scène, hein. Je veux dire, c'est se montrer, enfin, mettre en relief, éclairer, faire en sorte que ce qui nous semble être attirant pour les candidats soit mis en avant. Donc, c'est une forme de théâtralité. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Et nous, recruteurs, pour nos clients, ben, on doit aussi être ce relais. On doit donner envie. Il faut, même dans la manière dont on va essayer de contacter des candidats pour qu'ils viennent pour un entretien, le message doit être travaillé. Et le message aujourd'hui, ça peut être de la vidéo, ça peut être bien sûr un appel direct, mais il y a un texte qui doit donner envie, une annonce qui doit donner envie, un retour. Et donc, tout ça, c'est quand même une mise en scène. Ouais.
Il y a forcément une préparation, c'est évident. Enfin, moi, c'est ce que je dis en formation, c'est si vous devez parler devant des gens, que vous êtes traqueux, vous avez parlé tout ça, préparez-vous avant. Donc, préparez votre discours, écrivez-le si c'est plus facile pour vous, et après, mettez-le en bouche. Donc, en théâtre, on dit ça, mettre un texte en bouche, c'est vraiment, à un moment donné, c'est savoir ce qu'on va dire, le dire à haute voix, et on voit comment ça sort. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qu'on pense et ce qui sort de notre bouche n'est pas forcément toujours la même chose. Et il y a des interférences. Et donc, du coup, il faut s'entraîner à ça, à le dire à haute voix, recommencer si c'est pas bon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, c'est se sublimer, se mettre soi dans le plus beau costume, on va dire. Et en étant effectivement le plus sincère possible pour se ressembler. Et parce qu'effectivement, si on joue un personnage qui n'est pas le nôtre, à un moment donné, ça va se voir, ça va s'entendre et ça ressurgira à un moment donné. Donc, il faut être sincère, mais trouver les outils pour s'aider à être sincère ou en tout cas ne pas avoir le trac ou parler correctement ou avoir donné l'envie aux autres de nous écouter et ainsi de suite, ainsi de suite.
Alors, je vais juste reposer une question de façon très naturelle, vous le verrez, Corinne. Alors, est-ce que c'est important, je ne lis pas bien sûr, est-ce que c'est important de savoir quel est son naturel?
Oui, alors là, on meurt tout de suite.
Oui, j'imagine. Oui, même moi, j'ai eu du mal. Hein.
C'est là, il y a plein de choses. Il y a l'articulation, mais justement, ça me fait... voilà, il y a le tempo, mettre en relief ce qu'on dit, voilà, pour intéresser les gens. C'est tout un art aussi.
Ça s'apprend. On a des techniques. Tout ça, c'est bien. Et on en revient. Où est le naturel? Où est le naturel? Est-ce que vous, Pascal, quand vous voyez quelqu'un où vous sentez vraiment qu'il joue un rôle, il manque quelque chose, vous allez chercher l'autre personne qui se cache derrière ce rôle de comédien?
Oui, c'est un peu le principe du recruteur. C'est-à-dire que le recruteur, il doit donner envie, il doit bien présenter l'image de la société qu'il représente dans cette phase de recrutement. Mais par contre, il doit aussi aller un peu plus loin dans la connaissance du candidat, puisque aujourd'hui, un recruteur, sa principale, j'allais dire, valeur ajoutée, c'est quand même de travailler sur les soft skills du candidat. Essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la culture de la boîte et les profils du candidat. Et c'est pour les deux, d'ailleurs, ça serait un échec. Donc oui, on va chercher par des questions, en essayant d'aller au-delà de ce qu'il peut avoir préparé. Parce que le théâtre, ça peut aussi être du théâtre d'improvisation. Hein, mais par contre, effectivement, la manière dont on répond aux choses, ça reste important. Mais il faut aller chercher. Et dans certains, puisqu'on fait de l'intérim, vous l'avez rappelé, mais on a aussi des cabinets de recrutement au sein du groupe qui font de la chasse de tête, donc de profil, j'allais dire, de cadre dirigeant. Et on va faire des assessments qui vont durer une journée. Alors là, je veux dire, hein, qu'il est dans tous les sens du terme, on fait des approches, des jeux de rôle. D'ailleurs, on utilise le terme jeu de rôle. On le met en situation. Et donc ça doit permettre d'avoir le contour. Enfin, il n'y a jamais de certitude dans la nature humaine. C'est pas une science exacte, mais il y a quand même un art à essayer d'obtenir une connaissance de la personne. Ouais.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'une des entreprises pour lesquelles vous recrutez, on vous appelle, on vous dise, alors le gars que vous m'avez trouvé, alors là, au niveau travail, c'est parfait, je ne pouvais pas demander mieux. Et par contre, le mec derrière, mais qu'est-ce qu'il est lourd.
Ouais, ça, j'ai dû arriver sur la masse, hein, on fait 300 recrutements par an, hein, donc forcément, il doit y avoir un peu de ça, et même si on essaie de bien faire, il y a des gens qui arrivent assez bien à cacher quand même, mais je pense que aujourd'hui, selon, j'allais dire, ça dépend un peu des postes, mais c'est l'intérêt de personne de se tromper, y compris celle du candidat. Le candidat, il est tout aussi exigeant par rapport à l'entreprise que dans l'autre sens. Donc effectivement, oui, il peut y avoir ça. On a une phase critique quand on démarre, et c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai à tous les postes. Ça peut être un poste dans l'intérim comme un poste de cadre sup. C'est ce que dans le jargon on appelle l'onboarding, cette manière d'intégrer. Parce que y a des fusées là qui vont bientôt décoller. Une fusée, c'est pas quand elle est en orbite qu'il y a un problème. C'est soit quand elle décolle, soit quand elle atterrit. Donc cette phase là de décollage, elle est importante. Donc on essaie quand même d'aller au-delà du simple entretien d'embauche. Voilà. Mais ça, oui, bien sûr, ça peut arriver. Oui.
Et oui, il y a une chose, c'est que quand on se forme ou quand on fait un travail justement pour, par exemple, quelqu'un de très timide qui va avoir besoin de trouver des techniques pour surmonter sa timidité, son stress et tout ça, au début, ça va être des outils qu'il va appliquer. Mais après, c'est comme le vélo. Plus on en fait et plus ça devient naturel. Ou comme la conduite. Je me souviens personnellement, quand j'ai appris à conduire, je me disais jamais je n'arriverai à me souvenir qu'il faut que je fasse 5 trucs en même temps. Mais maintenant, je ne pense plus à tout ça et je conduis tout simplement. Et là, c'est exactement pareil. À force de faire, on intègre et ça devient un réflexe. Et en fait, c'est quand le réflexe est là, le naturel aussi après est là.
D'où aussi ma prochaine question à vous deux. Et la vidéo, alors, justement, les présentations, les offres d'emploi sur lesquelles on répond en vidéo, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut vraiment voir justement cette pièce de théâtre parce qu'on peut s'y préparer? Qu'en pensez-vous, Corinne?
Est-ce que c'est bien? Alors là, c'est pas à moi de répondre parce que je suis pas recruteuse ou recruteur. Je sais pas si on dit recruteuse d'ailleurs. Mais c'est un exercice. On n'a plus trop le choix parce que c'est de plus en plus demandé.
Vous les préparez à ça justement dans le cadre de vos formations, dans cette gestion de stress, de préparation, vous?
Alors, à la vidéo, non, ça ne m'est pas encore arrivé.
Ah ben voilà.
Mais voilà, exactement. Mais en tout cas, la préparation va être le même parce que la gestion du stress avant une vidéo, après, ou pas de vidéo, ou en visio ou n'importe quoi, ça va être de toute façon la même chose. Par contre, la chose à faire, c'est ce que j'ai dit avant, c'est s'entraîner. Donc, on fait une fois, une deuxième fois, on le fait à la maison, comme s'il y avait effectivement quelqu'un en face ou pas, ou une vidéo. Enfin, voilà, on se met en situation et on répète comme on répéterait un rôle au théâtre, effectivement.
Pascal, qu'en pensez-vous?
Alors, la vidéo, surtout depuis quelques temps, c'est devenu un outil incontournable dans les process de recrutement. Alors, quand on met les visios dans la case vidéo, quoi. Hein. Bon, maintenant... comme il y a des profils Facebook, ce que moi j'appelle le sourire Facebook, ces photos qui sont toutes un tout petit peu du même style, on peut aussi maîtriser l'art de la vidéo. Donc, on ne peut pas rester juste à ce niveau-là. Donc, la vidéo, voilà, c'est un super outil. Maintenant, j'ai des exemples, je ne vais pas citer le nom des entreprises, mais des gens qui ont réussi à passer la première étape vidéo et qui dans le dernier carré ou dans la dernière, chez les finalistes sont arrivés, s'est rendu compte qu'il y avait un monde entre l'image que la personne projetait en vidéo et le sentiment qu'on peut avoir quand on a la personne en face, parce qu'on dégage plein de choses. Il y a le langage corporel, il y a le fait que... il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a rien de mieux qu'une la meilleure question, c'est après une très bonne réponse, quoi. Et vice-versa. Donc, c'est un jeu où la présence permet de mieux appréhender la personne. Mais reconnaissons-le, c'est quand même un super outil. Ça fait gagner du temps. Ça permet de faire les premiers pas du recrutement plus vite. Avec moins de contraintes, mais ouais, ça remplace pas, quoi. Hein. J'ai presque envie de dire, c'est comme dans les rencontres personnelles. Enfin, surtout, c'est très bien la vidéo. La vraie vie, c'est parfois un peu différent. Ouais.
Bien sûr.
Puis la vidéo, il a quand même cet écran au-delà de la visioconférence qui est devenu un outil maintenant. Hélas, trop banal vu les circonstances. Mais la vidéo où l'on s'enregistre. On peut s'enregistrer 5, 10, 15, 20, 30 fois pour avoir la meilleure prise possible. On en revient à du cinéma. Alors que quand on est en live ou au théâtre ou sur scène, puisque vous êtes chanteuse, Corinne, également, si vous savonnez sur une chanson en plein milieu, on ne peut pas la refaire.
Ah ben non.
Et dans ces cas-là, d'ailleurs, en cas d'erreur, est-ce qu'il faut s'en excuser ou du moins en demander des excuses, puisqu'en français, on ne s'excuse pas, on demande aux autres de nous excuser. Mais est-ce qu'on doit faire cette démarche? Est-ce qu'on doit faire comme s'il ne s'était rien passé? Hop. Ou bien, au contraire, est-ce qu'on doit en jouer pour montrer qu'on a de la répartie?
Ben moi, je dirais les deux, mon capitaine, et tout dépend de la situation. Il y a des situations où le contexte permet, le public le permet, ce qu'on a mis, le lien, l'énergie qu'on a réussi à véhiculer le permet. Et effectivement, du coup, c'est se tourner en autodérision et du coup, ça passe très bien parce que le public va trouver ça charmant, mignon, drôle, enfin bon, voilà. Et dans d'autres situations, vaut mieux faire comme si de rien n'était. Et ça dépend, parce que si c'est effectivement le soir d'un concert sur une scène, un espace culturel, et là, bon... En fait, je dirais qu'il faut adapter. Et là, effectivement, il y a le côté... moi, j'ai fait du théâtre d'impro aussi, ça m'a énormément aidée, parce que justement, ça a développé le côté je réagis quoi qu'il arrive et je vais trouver une parade. Et c'est de l'entraînement aussi, c'est le fait d'avoir l'habitude et tout ça. Donc, je vais dire, selon le feeling, selon peut-être la personne qu'on a en face, l'ambiance et ainsi de suite... Les deux peuvent être bons, en fait.
Alors, vous avez évoqué le terme d'improvisation, de théâtre d'improvisation, tous les deux. Moi, on m'a appris, il y a longtemps maintenant, que la meilleure improvisation est l'improvisation qu'on a préparée.
Ah, mais oui, mais il y a toujours du travail partout, en fait. Alors, une improvisation ne va pas se préparer comme une pièce ou comme un texte où on apprend le début jusqu'à la fin au mot près, mais ça va être pareil, de la mise en bouche, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je peux dire, et préparer en fait ce côté, je peux réagir et avoir les idées qui viennent. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup du théâtre d'impro, c'est qu'il faut avoir l'esprit libre, hein. Et le cerveau vide, c'est-à-dire pour accueillir toutes les opportunités, les pensées qui peuvent arriver. Et plus on est libre de ça, et plus on laisse rentrer les opportunités, plus on peut réagir dessus. Et donc, voilà. Et après, c'est aussi de l'habitude. Mais en tout cas, la préparation, ne serait-ce que le mettre en bouche, avoir l'habitude de parler, bien articuler, et puis savoir réagir, c'est une bonne chose, c'est clair.
On a parlé des candidats, hein, des personnes qui viennent pour rechercher un emploi. Pascal Vespizer, vous pensez que c'est exactement la même chose quand vous êtes face à un client, ou un client d'ailleurs est en face de vous, parce que il lui aussi est demandeur, hein, quand il vous accueille?
Oui, mais moi je suis persuadé que la vie, que ce soit avec la fille qu'on drague, que ce soit avec la belle-mère qu'on veut essayer de séduire, que ce soit avec l'employeur qu'on veut convaincre, à un moment donné, il y a quand même un peu de, il y a un peu de posture, il y a un peu de théâtralité. Bon, je pense que dans les relations professionnelles, alors il y a différents degrés. Il y a des gens qu'on connaît depuis de nombreuses années, on a plus d'intimité, comme voilà, où on n'a pas besoin de refaire exactement tout le parcours, on va dire. Mais je pense qu'une entreprise, un client, il attend quand même, il attend une posture. Et il attend. Il peut parfois être effectivement, on peut être un peu disruptif, on peut être un peu différent. Mais alors, dans ces cas-là, il faut maîtriser ses basiques. Alors que vous disiez tout à l'heure, il faut avoir l'esprit libre. Oui, mais tu dois être sûr de toi, tu dois savoir, tu connais ta matière, tu sais que tu es à l'aise avec ça. Donc, ça te permet d'aller, de ne pas être concentré sur un truc de base pour pouvoir être différenciant quand il le faut. Donc moi, je pense que oui, il y a forcément cette relation. Tout le monde on est un peu en représentation quand même quand on est en prospection, quand on est en discussion avec un client.
Et je vais m'adresser au patron. Et aux recruteurs, est-ce que là, vous êtes aussi dans un rôle pour asseoir une forme d'autorité, d'avoir un rôle un petit peu plus, c'est moi le chef, qui n'est pas forcément votre personnalité à 100% dans la vie courante?
C'est assez ma personnalité, donc j'ai pas besoin de...
Je demande à tout hasard, rhétorique.
Non, mais bon, je pense qu'on n'est pas, on ne devient pas chef d'entreprise par hasard. Enfin, voilà, c'est... D'ailleurs, on doit être malheureux quand on n'est pas à sa place. C'est très dur, quoi. Hein. On prend des coups quand même. Quand tu veux être sur la scène, faut accepter de payer le prix d'être sur la scène, quoi. Bon. Oui, je crois aussi. On peut avoir son style. Il y a tellement de styles de chefs d'entreprise différents. Mais même des gens qu'on dit. Alors, on parle maintenant beaucoup des GAFA, enfin des nouvelles techno. Mais regardez le scénario de présentation des patrons quand ils viennent avec un nouveau produit, que ce soit Apple. C'est du théâtre, mais c'est grandiose. C'est impressionnant. Ils sont sur des grands écrans, etc. Bon, donc forcément, il y a une part de ça. Mais ça peut pas être que ça. C'est ça ce que je voulais dire.
Alors, ça nous amène à une autre thématique à laquelle on avait pensé avec Alexandra, ces grands Barnum initiés par Steve Jobs. Hein, il était un petit peu le premier à l'époque Apple à faire ça. Des grands Barnum, mais on voyait arriver sur scène un gars en jeans, basket, t-shirt noir, t-shirt gris pour le coup avec Mark Zuckerberg, qui est un peu son successeur dans ce côté patron star. Est-ce que l'habit fait le comédien?
Forcément, c'était réfléchi. Alors, probablement que le mec n'était pas en costard-cravate. Zuckerberg, qui se met en costard-cravate quand il est auditionné.
On sait que ça va mal pour lui.
Oui, quand il est au Sénat, bon, devant la commission. Mais ce qui serait disruptif, c'est que ces patrons-là soient venus en costard-cravate sur scène. Donc, mais dans d'autres domaines, si c'était dans la finance, etc., les mecs, ils viennent sur scène dans d'autres contextes, pas avec ces gros... Mais, habillés à leur manière. Donc, ils sont habillés, ils sont dans leur costume à eux. Moi, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de scénario derrière tout ça. Voilà. Alors, ils choisissent peut-être pas la cravate, mais on n'est pas loin.
Qu'en pensez-vous, Corinne? Parce qu'on le voit de plus en plus, hein, c'est quand même tout à fait novateur maintenant, même au niveau de la politique, que des personnages politiques arrivent à rentrer au Parlement sans cravate et le revendiquent, quitte à se prendre, dès le début, un blâme.
Je crois que la loi, enfin le règlement intérieur, me semble-t-il, a même dû changer ces derniers temps à cause de ça.
Exactement.
Bah déjà, je pense qu'il faut avoir bien confiance en soi pour se permettre de le faire et malgré les conséquences. Donc, alors personnellement, je trouve ça positif parce que ça prouve que la personne veut imposer quelque chose, amène son message et l'assume. Donc, je trouve ça très bien. Après, le côté cravate, costume, est-ce que... En fait, c'est
ce qui est important. Le marketing n'est jamais très loin. Aussi, quand tu vas à l'Assemblée et que tu sais que tu vas te faire retoquer parce que tu n'as pas de cravate, tu sais qu'on va en parler. Donc, il faut faire attention. C'est quand les groupes de rock à l'époque, ils se faisaient des vestes avec le drapeau anglais, ils savaient qu'ils allaient en faire, etc. Il y a quand même un peu de marketing. On veut faire parler de soi. Donc, moi, je pense que c'est important. Voilà, on fait pas n'importe. Je viendrai pas en claquette au bureau, quoi, par exemple. Maintenant, quand je veux provoquer, alors je peux le faire, mais alors j'ai un but en tête, quoi.
Alors, toute petite parenthèse, hein, avant de te donner la parole, Emmanuel. Alors, pour les candidats, quand vous allez voir un recruteur, une entreprise, Pas de casquette et pas de jogging, à moins que ce soit pour une marque de sport, s'il vous plaît.
Oui, et aussi peut-être pas s'endimancher trop si on n'est pas quelqu'un qui est à l'aise en costume cravate. C'est vrai qu'on sent la personne qui est mal à l'aise quand elle n'est pas habillée, quand elle n'est pas dans ses chaussons, si je puis dire.
Il y a un cadre à respecter parce que c'est professionnel. Donc, ce que vient de dire Alexandra, c'est tellement vrai. Et c'est ce qu'on... Bon, et puis, il faut l'expliquer. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un doit leur dire. Et c'est important. Parce que ça, c'est le cadre professionnel. Par contre, on n'attend plus de personne. Même les banquiers mettent plus, toujours la cravate en ce moment. Donc, mais il faut se sentir à l'aise. Vous avez raison.
Mais c'est bien ce que vous releviez, parce que ça veut dire comme quoi le premier coup d'œil peut aussi être le dernier. Est-ce que c'est bien ça? Ou
oui,
pas?
Alors, l'avantage d'un entretien, c'est qu'il dure un peu. Donc, on a le temps. Enfin, en principe, il n'y a qu'une seule opportunité de faire une bonne impression la première fois. Hein, bon. Mais l'entreprise ou l'entretien professionnel, c'est quelque chose de plus complexe. Et il faut savoir aller au-delà, parce que je crois que ça existe pas, et tout le monde en a conscience, que quelqu'un coche toutes les cases et qu'il soit... Sinon, il faudrait cloner les gens. Et ça
c'est limite, drôle, il quoi. Est louche.
Ah,
c'est suspect.
Ouais. Donc, on se méfie. Mais je crois quand même il y a un cadre à respecter parce qu'on est dans un univers professionnel. Ensuite, c'est quand même très important d'être naturel. C'est pour ça que je disais, c'est du théâtre, mais sincère, quoi.
Oui.
Je vais dire les choses comme je les pense, mais je vais quand même pas le faire n'importe comment. Je sais que c'est professionnel et que je viens pour travailler. Je suis pas là pour en dilettante, quoi.
Alors, question vraiment rhétorique, hein, sans viser personne. Vos collaborateurs ou collaboratrices qui arriveraient avec des habits ayant un message. Genre, par exemple, vraiment à tout hasard, une jeune femme, charmante au demeurant, mais qui arbore un t-shirt ambitieuse mais chieuse.
Non, chieuse mais ambitieuse.
Chieuse mais ambitieuse. Mais ça marche dans les deux cas, hein, n'est-ce pas?
Oui, je le montrerai sur la photo tout à l'heure, exprès. Non, mais il était pour toi, celui-là. Mais justement, alors, quand on vient avec des fameux vêtements, avec des messages, est-ce que ça peut mal être interprété ou pas du tout, on s'en fiche, ou ça peut avoir un bon sens, le fait de se montrer différente ou telle qu'on est?
Bah, pour un recrutement, je suis pas sûre que que chieuse mais ambitieuse, ça soit forcément le bon t-shirt à mettre.
Ah,
je crois pas.
On va voir ce que dira Pascal tout à l'heure. On va voir.
Mais après, peut-être une fois qu'on est dans l'entreprise, bon, je pense que c'est différent, mais voilà.
Là où je veux en venir, Corinne, c'est si demain, vous faites justement, vous êtes appelée par une entreprise, enfin, c'est ce que vous faites, et vous avez justement quelqu'un que vous devez coacher pour cette prise de parole, et qui arriverait habillé comme moi, est-ce que vous lui feriez la réflexion? Est-ce que vous, dans ça, oui ou non?
Oui.
Oui.
Oui, parce que je pense que, bon, après, il faut quand même... Bah, correspondre à un minimum, en fait. Et donc, le avoir un message, un minimum aussi, peut-être. En tout cas, pour le recrutement, parce que, comme dit, c'est le premier regard, la première idée. Hein. Et malgré tout, ça se fait quand même aussi souvent, même si après, il y a discussion, et puis heureusement, d'ailleurs. Mais la première impression, c'est quand même quelque chose de très important. Et alors, il suffit, en plus, que vous ayez en face de vous quelqu'un qui fonctionne avec le feeling, c'est-à-dire ce qu'il va ressentir de vous, s'il perçoit l'énergie qui émane de vous. Donc là, on est dans la communication non-verbale. Et que vous venez avec un message qui lui paraît être hors sujet ou quoi que ce soit, ou agressif, ou charmeur, ou trop, enfin quelque chose qui ne soit pas approprié, je ne suis pas sûre que ça colle. Donc, à mon sens, il vaut mieux être... se ressembler, mais être quand même neutre ou... Ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi, je pense que bon, c'est provoquant, donc c'est... Forcément, ça peut mettre la discussion tout de suite sur des rails qui sont peut-être pas les meilleurs. Maintenant, j'ai presque envie de dire, ça dépend aussi. S'il s'agit de trouver des développeurs de jeux qui sont un peu originaux. Moi, j'ai dirigé dans ma vie une start-up, comme tout le monde, en 2000 à Berlin. Bon, voilà, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Hein. Donc, c'est pas la même chose quand c'est dans certains univers. Si maintenant, c'est pour être contrôleur de gestion au Crédit Mutuel, ça va être un peu plus difficile, quoi. Parce qu'on va pas comprendre pourquoi quelqu'un veut paraître à ce point provoquant. Moi, je crois qu'on peut perturber parfois l'autre. On peut avoir une idée, mais il faut qu'elle soit pertinente et ça ne doit pas être quelque chose qui soit gratuit au départ, parce que tu ne sais pas au départ.
C'est ça. Oui, et puis en fait, ça dépend du contexte et pour qui on y va. En fait, si dans un milieu artistique, là, on est encore sur d'autres critères, en fait. Hein.
Voilà, il faut être le plus ouf possible, d'une certaine façon. Alors moi, j'ai une question induite, d'une certaine façon. Quid en France aujourd'hui du tatouage? Quid du tatouage? Dans beaucoup de pays, on voit des gens, même dans des professions publiques, que ce soit policiers, agents de douane, dans un aéroport en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ils sont couverts de tatouages, ça ne dérange personne. En France, le moindre petit point d'encre sur la peau, par moment encore, ou est-ce que ça évolue quand même aussi en France?
Enfin, voilà, moi je peux parler de moi en tant que chef d'entreprise, et donc j'ai dirigé quelques boîtes dans ma vie, mais c'est vrai que ça m'aurait sans doute vraiment heurté il y a 25 ans. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas. Alors ça dépend, si tu as une tête de mort qui est sur la joue et que tu veux faire... Et encore une fois, si tu veux être développeur, tu es derrière ton écran, on s'en fout que... Voilà. Mais si tu vas aller recevoir un candidat avec une tête de mort, ça va être plus difficile. Donc, je pense que, voilà, on apprend à mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et c'est normal, c'est la société qui évolue. Probablement que nous, ce qu'on faisait quand moi j'étais plus jeune, je devais choquer aussi la génération d'avant parce que j'écoutais du rock ou parce que j'avais des cheveux plus longs, etc. Donc, je crois que c'est une évolution de la société. Là, pareil, ça dépend quand même un tout petit peu. Il arrive assez fréquemment que des gens, selon les lieux où ils sont tatoués, l'endroit, viennent aux entretiens d'embauche couverts, et quand ils sont embauchés, sont découverts, ce qui peut provoquer quelques surprises. C'est arrivé déjà, on nous l'a signalé, mais je pense qu'aujourd'hui, pareil, c'est quelque chose qui est rentré vraiment dans... Moi, je pense que c'est rentré dans les mœurs.
Je pense aussi, ouais, en fait. Oui.
Je confirme, hein, Emmanuel, parce que de plus en plus maintenant dans l'agroalimentaire, ils indiquent bien aux candidats, pas de piercing, etc., bah, pour toutes les mesures de sécurité, ils l'indiquent. Donc, tatouage, piercing, c'est vraiment devenu dans les mains. On en voit de plus en plus. Hein, mon banquier a des tatouages, quoi. Et il en est très fier, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelque temps. Alors, pour le coup du t-shirt, j'ai bien compris, Emmanuel, la prochaine fois, ça sera de la licorne. Hein.
Chiche. Et moi, ce sera de la tête de mort. D'ailleurs, mon banquier a des tatouages, ça ferait un super titre de pièce de théâtre. On va essayer de réfléchir au synopsis ensemble. On va vous remercier surtout tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Et puis, voilà, maintenant que Corinne Gut, coach, s'est exprimée, un petit mot rapidement sur Corinne Gut, chanteuse, qui est venue avec une chanson. Quelle chanson issue de quel album?
Alors, c'est mon album éponyme qui s'appelle Corinne et les Voyageurs, qui est le nom de mon groupe. Et je suis donc auteur, un petit peu compositeur, mais plus rarement. Mais voilà, j'écris en français. L'album est sorti fin 2019. N'a pas pu connaître son envol avec le Covid. Voilà. Mais donc voilà, il est toujours d'actualité. Et là, j'ai ramené une chanson qui s'appelle L'Agitation. Et je parle d'un thème... d'actualité qui est en fait la boulimie. Et voilà, ça fait partie des mots qu'on, je pense, beaucoup de personnes ont en ce moment. Et voilà, l'idée au début, c'était de parler de l'agitation intérieure. Enfin, ça comporte c'est large en fait, la solitude, tout ce qui peut aller avec ce genre de choses. Et comme je l'ai amené par le biais de la nourriture, du coup, je me suis aperçue que je parlais de la boulimie. Et depuis que j'ai fait un clip également, qui est donc sur qui est sur ma chaîne YouTube, donc Corinne Gut YouTube. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que ça leur parlait énormément, en fait. Et
ouais.
Ça me fait plaisir.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Corinne. On va écouter cette chanson et puis l'occasion de faire un gros coucou à toutes les professions de la culture qui sont très, très, très en difficulté. Et on se retrouve très vite. Ciao, Alexandra.
À bientôt, Emmanuel. Et n'oubliez pas la chanson d'Aznavour. Vous êtes tous en haut de l'affiche à un moment ou à un autre.
Parfumé, bien à leur tour tourmenté, sa volonté déjà ébranlée, elle se laisse aller, bien que son ventre s'arrondisse, bien que son cœur se resserre, bien que son estomac se tourne, la solitude l'emporte, bien que son ventre s'arrondisse, bien que son cœur se resserre, bien que son estomac torne, la solitude l'emporte, elle mange encore. Elle dévore sans modération pour calmer son agitation, qui la dévore de l'intérieur, qui la dévore. Elle dévore sans modération pour calmer son agitation. La tourmente, le manque d'amour, le vide, le dégoût, cette vie sans joie et sans pouls pour elle, maintenant n'a plus de sens. Elle voudrait tant avoir enfin la force d'envoyer balader, chocolaton, fraisier parfumé, recommencer, recommencer. Bien que son ventre s'arrondisse, bien que son cœur se resserre, bien que son estomac se torne, la solitude l'emporte, bien que son ventre s'arrondisse, bien que son cœur se resserre, bien que son estomac se torde, la solitude l'emporte, elle mange encore. Elle dévore sans modération pour calmer son agitation, qui la